C'est pour te rencontrer. Ton peuple s'assemble pour chanter tes louanges, pour recevoir de ta parole, pour communier ensemble, Seigneur, mais c'est toi, par la présence de ton esprit au milieu de nous, Seigneur, qu'on vient rencontrer. On te demande de venir nous bénir ensemble ce matin, de nous construire, de nous faire grandir, Seigneur, comme Église. Seigneur, je suis reconnaissant pour ce livre de John Piper, ce cours sur la mission. Et Seigneur, je te prie de vraiment nous aider à saisir ta passion, à saisir ta vision, Seigneur, afin qu'on soit alimenté de ce même cœur que toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, la semaine prochaine, on n'a pas de cours, c'est une longue fin de semaine. Donc, il n'y a pas de classe la semaine prochaine. Juste pour vous le mentionner, il y a un férié, je pense, le lundi, la fête de la Reine, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de classe la semaine prochaine, on reprend ensuite. Et puis, donc, on est en train de compléter notre chapitre 5 dans le livre de John Piper, si vous suivez avec nous dans le livre. On est dans le cours « Que les nations se réjouissent », deuxième partie. Et puis, on est vraiment dans l'idée de la place centrale de Dieu pour les nations. Où est-ce qu'il est Dieu par rapport aux nations, puis comment est-ce qu'on le voit dans le Nouveau Testament? On a déjà couvert ensemble l'Ancien Testament, puis on a vu que cette vision-là d'un salut pour les nations, puis même d'Israël qui devait être là pour aider à atteindre les nations, puis les nations qui allaient être bénies en Israël, c'est quelque chose qui était déjà très présent dans l'Ancien Testament. On a mentionné que les enseignants, les apôtres, les premiers enseignants dans l'Église, quel était leur livre pour enseigner? Ce n'était pas le Nouveau Testament. Ils n'avaient pas Matthieu 28, 19 et 20, aller vers toutes les ethnos de la terre, toutes les ethnies. Ils n'avaient pas ça. Donc, où est-ce qu'ils sont allés chercher cette idée-là? Ils sont allés la chercher dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament. Et tout ça va être confirmé ensuite de ça dans la rédaction du Nouveau Testament. On a vu ensemble la semaine dernière la vision de Paul pour les nations. Même, on a abordé un petit peu l'idée que lorsque Paul avait couvert une région puis avait réussi à implanter des églises qui rejoignaient en somme les ethnies de cette région-là, il estimait qu'il avait complété son mandat dans une région. Il va aller jusqu'à dire « J'ai complètement annoncé l'Évangile ». Et je ne sais pas si vous vous rappelez de notre illustration au début de tout ce chapitre-là, l'illustration avec les deux navires qui font naufrage en mer. Puis il y a une équipe de sauvetage qui s'en vient, puis vers quel navire est-ce qu'ils vont aller pour sauver? Est-ce qu'ils doivent aller sauver des gens des deux navires pour être justes? Comment ça fonctionne? S'ils veulent sauver le plus grand nombre de personnes, ils vont continuer à sauver tous ceux qui peuvent, qui sont le plus près d'eux, en espérant que les autres vont continuer à survivre puis à nager, mais au risque, au péril des autres, sans que ce soit nécessairement équitable, si on peut dire, parce que tu veux sauver le plus grand nombre. Et on posait la question, est-ce que c'est l'approche que Dieu a? Est-ce que Dieu commence par installer, admettons, un témoignage de l'Évangile le plus parfait possible, avec le plus d'efficacité possible, le plus de facilité? Est-ce que le Seigneur va sauver là où les gens sont vraiment ouverts à l'Évangile? Et puis là où les gens sont complètement fermés, ben on ira peut-être plus tard, si. Et c'est pas ça qu'on voit comme, je m'excuse de dire comme ça, comme « pattern ». Dans les Écritures, c'est pas ça qu'on voit chez Paul. Donc, Paul fait pas ça. Il va littéralement partout, il veut atteindre tout le monde. Et donc, c'est comme ça que Dieu désire que ce soit fait. Si Dieu avait voulu que ce soit autrement, par exemple, si on voulait être très, très concret, j'avais donné cet exemple-là qui est un petit peu bête, mais en même temps très réel, c'est que si, admettons, nous, comme Église, on disait, OK, on veut avoir le plus grand nombre de personnes au ciel possible, fait que notre stratégie, ça va être d'aller vers les gens qui sont le plus ouverts à l'Évangile. Vous savez ce qu'on fait? On arrête d'annoncer l'Évangile aux Québécois de souche, puis on se concentre sur les immigrants qui arrivent ici. Parce que la vaste majorité des immigrants qui arrivent ici ont une vision du monde dans laquelle Dieu est présent, Dieu existe. C'est correct qu'on rende des comptes à Dieu. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui vient d'un pays d'Afrique puis qu'ils ont perdu un enfant en bas âge, ils ne vivent pas cette épreuve-là par rapport à Dieu de la même manière qu'un occidental va le vivre. L'occidental, généralement, va dire « Mais Dieu, quel monstre es-tu pour m'avoir enlevé mon enfant? » Puis la personne qui va arriver d'un pays d'Afrique va arriver et va dire « La vie est difficile, Dieu est bon. » Littéralement, là. Comprenez, c'est deux visions du monde différentes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre mandat, c'est d'aller là où c'est le plus facile? Donc, on s'en va pas en Chine. On n'ira pas en Chine. On n'enverra pas des missionnaires en Chine. Ils risquent de se faire tuer. On ne les enverra pas dans les pays musulmans très fermés, très radicalisés. Nos missionnaires vont se faire tuer. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Ce n'est pas ça que le mandat que le Seigneur nous a donné comme mandat. Et ce qu'on a commencé à développer ensemble, je sais que c'est des illustrations qui ont de l'air extrêmes, mais en même temps, vous voyez que c'est très pratique, c'est concret. L'Église a tant de missionnaires qui sont prêts à partir. L'Église a tant de ressources financières. L'Église mondiale donne plusieurs milliards de dollars par année à la mission. Où est-ce qu'on investit cet argent-là? Là où toutes les conversions semblent se faire rapidement? Ça veut dire qu'il y a certains pays d'Asie actuellement qui sont extrêmement favorables. Il y a évidemment l'Amérique latine qui est encore très favorable. Il y a certaines régions en Afrique qui sont très ouvertes à l'Évangile. Mais l'Occident, oubliez ça. La France, l'Angleterre, l'Amérique, oubliez ça, de moins en moins les États-Unis. On abandonne ça. Ce n'est pas des terrains fertiles pour l'Évangile. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce qu'on a commencé à voir ensemble, c'est que il y a vraiment cette vision dans les Écritures où Dieu nous annonce l'éternité, puis il nous dit « Dans l'éternité, il va y avoir des gens de toutes les ethnies de la terre qui vont venir louer Dieu dans toutes les langues de la terre. » J'ai souvent fait allusion à ça dans des messages, mais la diversité dans l'Église, la diversité culturelle dans l'Église, même la diversité de langues dans l'Église, vous savez que ça va être célébré dans l'éternité? Ça va être célébré dans l'éternité, ça. On va voir ensemble ce matin, puis on va aller voir un passage qui nous dit ça, mais on va voir ensemble ce matin que cette vision-là n'était pas seulement la vision de l'apôtre Paul. On pourrait être tenté de croire que l'apôtre Paul, qui dit « Moi, je suis l'apôtre des païens », aurait développé comme cette théologie-là pour mettre en valeur sa vision à lui de son appel. Mais est-ce que Jésus présente ça? Est-ce que les autres apôtres croyaient cela? Alors, dans les écrits de Jean, de l'apôtre Jean, et commençons par l'Apocalypse, d'accord? Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, versets 9 et 10, on lit « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Donc, ils sont en train de s'adresser à l'agneau, au Fils, à Jésus. « Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. » Et donc, dans cette vision apocalyptique que Dieu donne à l'apôtre Jean, il y a déjà cette notion-là qui est présente. Des gens de toute nation, et là on pourrait penser géopolitique, toute nation, non, toute tribu, toute langue. Donc, c'est vraiment le concept d'ethnie, ethnos, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, puis, tu sais, je fais juste un pas en arrière pour des fois voir la beauté de la parole de Dieu puis du plan de Dieu. Quand tu réalises que cette diversité-là est le fruit du péché de l'homme, à quel moment ça s'est produit, cette diversité-là? Quand est-ce que la diversité linguistique est apparue sur la terre? À Babel. À Babel. L'être humain s'est rebellé contre Dieu. Dieu a maudit les hommes. Les a frappés de diversité. Fait, qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité? On va tout ramener ça ensemble, on va tout parler, je ne sais pas moi, l'araméen, est-ce que c'est ça? Non! Dans l'éternité, cette diversité-là, qui est le fruit d'un châtiment de Dieu, maintenant va être célébrée pour l'éternité. C'est vraiment intéressant de comprendre avec les années l'ensemble des Écritures pour voir à quel point il y a des choses comme ça qui sont vraiment belles dans les Écritures. Vous savez, des fois, on dit un petit peu rapidement, des fois un peu légèrement, on dit « la seule chose que l'être humain a faite qu'il va y avoir dans l'éternité, c'est quoi? C'est les trous dans les mains de Jésus. » C'est vrai? Vous avez déjà entendu ça, cette phrase-là? C'est la seule chose qu'il va avoir au ciel que l'être humain a fait, tout le reste c'est Dieu qui l'a fait, c'est les trous dans les mains de Jésus. Mais en même temps, c'est comme si le mariage de Dieu avec l'humanité va tellement loin. Non seulement il nous a créés, mais après, dans notre rébellion, il nous a maudits, puis en nous maudissant, il a créé la diversité, puis il va la célébrer, cette diversité-là, qui demeure un écho à la rébellion des hommes, mais qui maintenant ont été rachetés par le Christ, puis là, cette diversité-là est célébrée. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire de voir combien Dieu aime l'humanité. On n'est pas capable de trouver cette même passion-là envers les anges. Christ n'est pas mort pour les anges. Je le dis souvent quand je parle avec des chrétiens. Est-ce que vous réalisez la grâce que nous avons? Il n'y a pas de porte de salut pour les anges qui renient Dieu. Ils sont éternellement déchus, sans possibilité de grâce. Mais ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Pourtant, supérieurs à nous à bien des égards, n'est-ce pas? C'est ça que les Écritures nous disent. À plein d'égards, ils sont supérieurs à nous. Mais ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. L'humanité, nous, des petits êtres humains tellement fragiles, nous, on a été créés à l'image de Dieu. Puis quand Dieu a fait ça, c'est comme si Dieu a marié l'humanité avec tous ses plus pires côtés, puis il va venir la racheter, puis il va venir la racheter même après l'avoir maudit, puis il va célébrer dans l'éternité cette diversité-là. En tout cas, je m'excuse, c'est un petit sur le côté, mais c'est beau la parole de Dieu. Honnêtement, là, découvrir l'amour de Dieu, c'est fantastique. Alors, quelle est la vision missionnaire? Excusez-moi, quelle vision missionnaire nous y trouvons pour les ethnies représentées en train de chanter autour de l'agneau dans toutes leurs langues? Donc, il y a deux idées. C'est que Dieu célèbre le fait que chaque individu va décider de croire. Il ne suffit pas d'être juif pour être fils d'Abraham. Il ne suffit pas d'aller dans une église évangélique pour être chrétien. Chaque individu va connaître Christ et Christ va le connaître par son nom. Donc, il y a une célébration de l'individualité, mais il y a une célébration de la diversité culturelle qui est là dans l'éternité à travers les nations, les tribus, la promesse qui avait été faite à Abraham, des gens de toutes les familles de la terre. Maintenant, si on revient dans l'Évangile de Jean, alors ça, c'est l'Apocalypse, un écrit de Jean. Est-ce que c'est juste Paul qui parle de ça? Non, Jean a eu une révélation qui nous dit ça. On va maintenant dans l'Évangile de Jean, puis là, on va aller dans Jean 11. Puis là, c'est tellement une ironie de la part de Dieu. Le souverain sacrificateur Caïphe va se mettre à prophétiser. Je veux dire, là, tu ne pouvais pas avoir plus nationaliste juif que le souverain sacrificateur Caïphe. Et voulant médire, il va se mettre à prophétiser puis annoncer le salut pour les nations. Jean 11, 51-52. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Okay, donc, c'est Jean qui est en train de faire la narration. Il est en train de commenter ce qui s'est passé. Puis il dit, « Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, si vous vous rappelez, si vous connaissez un peu la théologie du rôle de l'Esprit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans la personne de manière permanente, mais l'Esprit venait sur le roi, l'Esprit venait sur les prophètes, le souverain sacrificateur. Pendant cette année-là, cet homme qui veut faire du mal à Jésus, est au service de Dieu, puis l'Esprit vient sur lui, puis parle à travers lui, malgré lui. » D'accord? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et donc, ce que Jean est en train de nous dire, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas de cette nation-là, mais qui sont dispersés. Et donc, ça va être un thème qui revient dans l'Évangile de Jean, les enfants de la dispersion. Puis là, on pourrait penser, lorsqu'on va dans le livre des Actes, on pourrait croire qu'il s'agit de la diaspora juive, les Juifs dispersés, mais non, c'est ceux qui sont d'une autre nation, d'autres nations. D'accord? Donc, on ne parle pas de la diaspora juive, les Juifs dispersés dans l'Empire romain, mais on parle de ceux qui seraient d'une autre nation. Jean nous dit que le souverain sacrificateur annonçait justement que Dieu avait des enfants dans d'autres nations. Dans Jean 10, 16, et là, c'est Jésus lui-même qui va parler. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Dans le contexte de Jean, c'est évident, ils ne sont pas de cette bergerie, ils ne sont pas de la bergerie d'Israël. Donc, ils sont d'autres bergeries, puis ils vont entendre ma voix, d'accord? Et puis, ils vont être sauvés. Dans Apocalypse, quelques passages rapidement, quatre passages, Apocalypse 7, 9, 10. « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse 14, « Je vis un autre ange. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Apocalypse 15, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Souvent, lorsque je lisais ces passages, il y a des passages qui font écho à ça dans l'Ancien Testament chez les prophètes. Puis, souvent, dans certains cas, tu as le sentiment que c'est comme si les nations vont venir, mais pas avec un cœur d'adorateur. Ils vont trembler, puis ils vont voir que Dieu est le vrai Dieu, puis c'est comme un jugement sur eux d'être obligés de reconnaître. T'sais. Mais en même temps, clairement, il y a des gens de toutes les nations de la terre qui vont devenir des adorateurs. C'est présent aussi dans l'Ancien Testament, mais des fois, je lisais certains passages, puis je me disais, ça a l'air d'être plus un jugement. Dans d'autres cas, c'est effectivement des gens qui sont transformés en adorateurs. Apocalypse 21:3, j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et donc, des gens de toutes les nations vont former son peuple. Il y a plusieurs allusions dans ces passages-là au psaume 68. Puis le psaume 68 parle justement, ça nous donne un aperçu du fait qu'il va y avoir ce règne-là où il va y avoir des gens de toutes les nations qui vont être sauvés. Est-ce que cette priorité-là que Jean accorde aux nations, est-ce que cette priorité-là que Paul accorde aux nations vient de Jésus ou est-ce que ça vient d'eux-mêmes? D'où ça vient, ça? Est-ce que c'est l'Église qui a comme construit des choses par la suite? Regardez dans l'Évangile de Luc encore. Les paroles du Seigneur lui-même qui nous sont rapportées et qui parlent éloquemment de cette même vision du salut pour toutes les nations de la terre au sens ethnique. Luc 24, 45, 47. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Puis encore une fois, comme je vous dis, le mot « nation » qui est là, c'est le mot « ethnos ». Il ne faut pas le comprendre comme une nation géopolitique. La nation canadienne est composée de beaucoup de « ethnos », d'accord? Et donc, si on parle d'une nation ici, c'est vraiment dans le sens ethnique du terme. Jésus leur enseigne que l'Ancien Testament annonce ce salut pour les nations. Lorsqu'il dit, il fallait qu'ils comprennent les Écritures. Jésus est en train de leur expliquer les Écritures, de leur expliquer l'Ancien Testament. Puis il dit, l'Ancien Testament annonce cela. Je vous relis le passage dans Luc 24, 45, 47. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent quoi les Écritures, l'Ancien Testament. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors, c'est vrai que dans son ministère à Jésus, jusqu'à sa crucifixion, il y a un aspect mystérieux dans son ministère où ce mandat-là d'aller vers les nations, même la révélation de sa propre personne, qui il est, ça se fait progressivement. Même sa divinité, c'est comme, c'est là, il fait des allusions, particulièrement dans Jean, mais c'est pas tout dévoilé. Mais rappelez-vous qu'au départ, dans son ministère, il refusait même que ceux qui comprenaient qu'il était le Christ l'annoncent. Là, il disait, non, vous annoncez pas ça, parce qu'il y avait une mission à accomplir, il y a des temps qui devaient être accomplis. Et lorsque les temps ont été accomplis, plus on approche de la croix, plus les choses deviennent limpides et claires, puis ils se dévoilent, puis il n'y a rien qui est retenu. Et lorsqu'on arrive après sa mort et sa résurrection, au contraire, il va aider à ce moment-là ses disciples à comprendre les Écritures. Il va leur dire, « Mon esprit va vous être donné, il va vous instruire et vous allez pouvoir comprendre les choses que vous n'avez pas saisies encore. » Jésus cite plus loin Isaïe 56, 7. Je les amènerai sur ma montagne et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Il est en train de faire une allusion à la maison de prière à Ésaïe 56, 7, lorsqu'il parle d'une maison de prière. Et dans ce contexte-là, c'est un contexte de salut pour les nations. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Fait que lorsque Jésus va dans le temple et dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », il est en train de faire allusion, il est en train de citer Ésaïe, qui est en réalité un texte qui nous annonce une maison de prière, pas pour les Juifs, pour toutes les nations de la terre. Jésus, évidemment, connaissait l'Ancien Testament, c'est lui qui l'avait inspiré. Alors, on revient au mandat missionnaire dans Matthieu. Le Nouveau Testament dans son ensemble, et plus particulièrement le mandat donné par Christ à ses disciples, est un mandat universel et continuel jusqu'à ce que des gens de toutes les ethnies de la terre soient unis à Christ et à son Église par la prédication de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette bonne nouvelle dans Matthieu 24, 14 sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Dans Romains 15, 11, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église de l'Espoir? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Ça veut dire que le mandat de Matthieu 28, 19 et 20 nous est donné à chacun d'entre nous. Si on est des enfants de Dieu, on a reçu ce mandat-là, parce que le mandat est continuel. D'accord? C'est pas simplement les apôtres, c'est pas simplement ceux qui ont établi l'Église. Le mandat est continuel jusqu'au retour de Christ, et le mandat est universel, pas dans le sens que tous les êtres humains vont être sauvés. Ça, c'est l'universalisme, on a déjà parlé de ça plus tôt dans le cours. Mais il est universel dans le sens qu'il va y avoir des gens de toutes les ethnies, de tous les peuples, de toutes les langues de la terre qui vont célébrer l'Éternel. Et donc, notre mandat à nous, comme Église, depuis le départ de Christ, est d'aller puis annoncer l'Évangile à toutes les nations de la terre. Lorsqu'une Église locale décide de s'investir financièrement dans la mission, elle fait bien d'examiner qui on est en train de supporter à travers le monde. Pendant très, très longtemps, il y avait énormément d'argent qui était envoyé dans les ministères para-ecclésiastiques, par exemple. D'accord? Un ministère para-ecclésiastique, c'est un ministère qui n'est pas rattaché à une église. Ces ministères-là sont souvent nés dans des périodes de l'histoire de l'Église où des fois l'Église ne jouait pas tous ses rôles. Puis, oups, il y avait un ministère qui naissait, mais très indépendant des églises locales. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de soutien qui était là. Maintenant, ce qu'on cherche à faire ici, ce que les églises cherchent à faire de plus en plus, c'est vraiment prendre le temps de regarder qui sont les missionnaires qu'on est en train de supporter. Qu'est-ce qu'on est en train de soutenir financièrement? Je vais prendre 2 minutes ce matin pour vous parler de 2 missionnaires qu'on soutient, les Maisons Neuves. Puis on est en train de travailler pour essayer de les avoir en visite ici bientôt. Puis après ça, on va conclure la leçon. Mais je vais juste l'introduire ici. Donc, Denis et Brigitte Maisonneuve, ce sont 2 missionnaires québécois qui ne sont pas si loin que ça de chez nous. Ils sont dans le coin de Sept-Îles. D'accord? Donc, ce n'est pas les extrémités de la terre, mais ils ont une particularité. Leur champ missionnaire, ce sont les Innus dans ce coin-là. Ils sont, en fait, je pense, à 20 kilomètres de Sept-Îles, dans un petit village beaucoup plus petit, Clark City, je crois. Et puis, donc, ce sont deux Québécois en même temps. Denis, vous pourriez quasiment le deviner en le regardant, il est d'origine algonquine, donc il y a des origines amérindiennes. Et donc, les deux se sont convertis en 79, alors qu'il avait 23 ans environ, servi le Seigneur ici à Laval, à une église à Chomédé, dans notre association. Et puis, dans les années 90, un fardeau vient sur leur cœur de dire qu'ils doivent aller rejoindre les peuples amérindiens, probablement à cause des origines de Denis. Déménagent à Sept-Îles, vont servir auprès de l'église de Sept-Îles là-bas. Lui, travaille à temps plein, donc soutien de famille, mais tout le temps qu'ils ont, ils l'investissent pour commencer à aller rejoindre ces gens-là en se joignant à un missionnaire qui était déjà là, Terry Baskin, qui était en train d'implanter une église auprès des Innus. Il y a 2 réserves qui sont là-bas, là, on les a dans vos notes, là, Ushawat puis Maniutenam, qui sont là-bas. Donc, il y a deux réserves Innu qui sont à proximité quand même de cette île. Et donc, depuis 1997, maintenant, les Maisonneuves sont consacrées à ce ministère-là. Il y a une église Innu évangélique qui est implantée là-bas. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure. Si notre compréhension, c'était de sauver le plus grand nombre de personnes, c'est peut-être pas le premier endroit où tu irais. Pourquoi? Parce que c'est un champ missionnaire très difficile. Vous savez que les Amérindiens ont beaucoup souffert au Québec d'un mauvais témoignage de l'Évangile à travers les pensionnats, entre autres, où on allait leur enlever leurs enfants pour les rééduquer. Et dans ces contextes-là, il y avait des situations d'abus aussi. Déjà, c'était tout un abus d'arracher les enfants à ces parents-là pour les placer dans des pensionnats. Mais en plus de ça, il y avait des mauvais traitements souvent dans ces pensionnats-là. Et donc, lorsque je parlais avec un missionnaire auprès des Amérindiens, lui me disait, « Yannick, pour ces gens-là, les chrétiens, c'est un monsieur avec une croix dans le cou qui abuse les petits-enfants. » Fait que pour eux, c'est ça, le christianisme. Je ne dis pas maintenant que tous les religieux catholiques qui ont servi là, c'est tous des gens qui faisaient du mal. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le témoignage de l'Évangile, pour eux, ça ressemble à cela. Ce sont des peuples qui, pour toutes sortes de raisons, sont brisés, avec des taux d'alcoolisme, de suicide, d'inceste, de violence. Vous connaissez un peu la réalité avec les médias. Et donc, c'est un endroit où c'est très difficile d'annoncer l'Évangile. T'es le colonisateur. Tu sais, ça ressemble à ça. Puis on l'a déjà subi une fois. Puis là, tu t'en viens avec ton Christ pour nous donner quoi encore cette fois-là? Et donc, lorsqu'on va vers les peuples amérindiens, il faut vraiment aller vivre au milieu d'eux, prendre le temps d'aller les rejoindre dans leurs besoins, dans leurs souffrances, devenir des amis, devenir un foyer pour eux. Puis progressivement, ils vont discerner leur image qu'ils avaient du christianisme et le christianisme qui est vécu là. Et puis là, les portes s'ouvrent tranquillement, puis on commence à témoigner. Donc, il y a une église qui est implantée avec des conversions. Mais c'est un long processus. C'est un processus où on est là avec cette vision, Dieu veut sauver des gens de toutes les nations, de toutes tribus de la terre. Et donc, les églises font bien de prendre le temps d'examiner qui on est en train de supporter, vers qui on s'investit, d'essayer d'être diversifié, de donner pour la traduction des Écritures, comme j'ai mentionné dans les dernières semaines, auprès de peuples qui n'ont même pas des fois de langue écrite. Puis on va s'investir, puis ça peut sembler être un coup d'épée dans l'eau. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'on va envoyer des missionnaires qu'on va supporter à toutes les églises qui les soutiennent, je ne sais pas moi, à raison de 40, 50, 60, 70 000 $ par année, qui vont aller travailler pendant plusieurs années sans savoir nécessairement si ça va porter du fruit. Mais on a cette vision-là. Cette vision-là, il faut aller atteindre des gens de toutes les nations de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu aurait cette vision-là? J'aime ça, je vais terminer avec quelques idées que John Piper souligne. Je m'excuse, juste un instant. Pourquoi est-ce que Dieu apporte cette vision-là où il veut sauver des gens de toutes les nations de la terre? Pourquoi est-ce que Dieu se donne autant de troubles que cela? Il y a deux valeurs, deux motifs dans la personne de Dieu qui vont ensemble. Dans notre perspective humaine, on a tendance à les opposer. C'est-à-dire l'amour de Dieu pour les êtres humains et puis la gloire de Dieu, le fait que Dieu veut sa gloire. Si à la fin du cours, on arrive quand même dans les dernières semaines du cours, ces deux aspects-là, ces deux objectifs-là de la personne de Dieu vous semblent encore conflictuels, je vais vous ramener au début du cours. D'accord? C'est ça qu'on a développé au début du cours. John Piper fait un bon travail au début de son livre, dans les premiers chapitres, pour démontrer que la recherche de la gloire de Dieu par Dieu est la meilleure chose qu'il peut poursuivre, même pour notre bonheur à nous. Son amour pour nous commande qu'il cherche sa gloire. Je ne referai pas tout l'argument. Travailler fort sur ça. Fait que si quand je dis ça, vous dites c'est bien compliqué ou je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, dans ma tête, ça, c'est en conflit, c'est super important que vous clarifiez ça. C'est vraiment énormément important parce que quand vous allez annoncer l'Évangile à des amis, à des collègues de travail, puis qui vont vous arriver, admettons, avec la question du problème du mal dans le monde, Pourquoi est-ce que Dieu, qui est souverain, qui est tout-puissant, permet le mal dans le monde? C'est avec les premiers éléments que vous allez avoir la réponse, avec ce que je suis en train de parler. C'est là que vous allez puiser la réponse pour dire, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile à comprendre, mais les Écritures sont claires et les Écritures se tiennent entièrement sur ça. Et ce n'est pas qu'on est indifférent à la souffrance dans le monde du tout. D'accord? C'est possible de prendre le raccourci que je prends des fois dans des messages. Vous m'entendez des fois dire, admettons, où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu? Bien, Dieu est en train d'amasser une montagne de colère contre toute l'injustice qu'il y a dans le monde. Dieu prend des notes actuellement, puisqu'il y a un jour qui s'en vient, qui est le jugement dernier. Tous les hommes vont comparaître devant Dieu. Puis, je peux faire ça, vous comprenez? C'est vrai, c'est biblique si je suis en train de faire ça. Je suis en train de prendre un raccourci rapide pour dire, fais-toi-en pas. Puis en même temps, bien, tranquillement, je m'en vais vers la personne elle-même. Puis en passant, il prend des notes sur toi aussi. Fait que peut-être que tu veux te mettre en règle avec lui avant qu'il revienne. Donc, on est parti de Dieu n'est pas correct à ben, peut-être que c'est toi en fin de compte, puis que tu vas comparaître devant Dieu. Sauf que quand je fais ça, je ne sais pas si vous voyez le raccourci que je fais, là, je m'en vais directement là. Je n'ai pas traité la question de la gloire de Dieu dans tout ça. Comment est-ce que Dieu fait pour être glorifié? Alors, je reviens sur ça. Si cette réponse-là, en quoi la poursuite par Dieu de sa propre gloire est la chose la plus belle et la plus grande pour l'humanité qu'il peut faire, si ça, ce n'est pas clair pour vous, retournez au début du cours, allez réécouter sur le site web les premières leçons, prenez le livre de Piper, lisez les premiers chapitres, décortiquez-les, puis là, à un moment donné, vous allez dire, « OK, là, je comprends. » Là, tu comprends pour les trois prochaines minutes. C'est correct? Fait que, écrit, fait un sketch. C'est ça que la semaine dernière, je parlais avec quelqu'un. Fais juste comme un plan du raisonnement, parce que je te le dis, dans quatre minutes, tu t'en souviendras plus. C'est complexe, c'est un peu philosophique. Mais là, tu le relis, puis là, tu le relis, puis à un moment donné, « OK, oui. » Je comprends. Là, c'est clair pour moi. Puis quand quelqu'un vient avec des questions super importantes, parce que nos contemporains qui n'ont pas une vision du monde où ils craignent la personne de Dieu puis ils croient dans l'existence de Dieu, lorsqu'ils arrivent à Dieu, souvent ils arrivent avec des questions philosophiques. Ils abordent la question de l'existence de Dieu sur un plan philosophique. Ils vont avec des grandes équations mathématiques. Pourquoi Dieu si? Comment peux-tu justifier Dieu si? Il y a ça dans le monde. D'accord? On est dans des grandes questions. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il faut que je sois capable d'aller un petit peu danser avec eux sur ce terrain-là. Et c'est faisable. Vous pouvez tous réussir à le faire. Il faut juste comprendre qu'est-ce que les Écritures nous enseignent. Maintenant, le plus grand motif pour aller comprendre ces choses-là, c'est pas pour que vous puissiez répondre à votre voisin. C'est pour que dans votre adoration, vous soyez sur le dos, tout simplement. Vous tombez sur le dos puis vous dites « Ah, yoï. » Dieu est incroyable. Dieu est infiniment plus sage et plus bon que moi. Puis des choses qui me semblaient être scandaleuses, a priori, lorsque j'entendais ces choses-là sur Dieu, quand je les comprends bien, je vois l'infinie sagesse de la personne de Dieu. Et donc, c'est pour votre édification, pour votre adoration à vous-même que vous voulez comprendre ces choses-là. Pourquoi est-ce que Dieu veut avoir des gens de toutes les nations de la terre qui vont le célébrer pour sa plus grande gloire? Parce que Dieu veut faire la démonstration que même si l'être humain s'est rebellé, puis l'être humain a été châtié, puis la diversité a été créée, Dieu allait sauver des gens de toutes les nations de la terre. Il allait laisser tomber aucun peuple, aucune nation. Et il allait être célébré dans cette diversité-là. Ainsi, Dieu poursuit donc le but de manifester, je suis à l'avant-dernière page, sa gloire parmi toutes les nations de la terre, afin de faire résonner parmi toutes les ethnies de la terre, dans toutes les langues de la terre, parmi toutes les familles de la terre, sa majesté et la gloire de sa grâce envers les hommes. Romains 1:5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. De toute évidence, pas tous les païens numériquement sur la terre, mais des gens de toutes les nations de la terre. Apocalypse 5:9, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Dieu a désiré cette diversité absolue dans son Église et il va poursuivre cet objectif-là jusque dans l'éternité. Puis ensuite, il va le célébrer dans l'éternité. Apocalypse 21:3, j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alors voici les conclusions de John Piper à ce chapitre-là. 1. L'unité dans la diversité donne la louange à une beauté et une puissance bien supérieure à celle que produit la seule unité. Donc Dieu va être célébré par la diversité. Des gens de toutes sortes d'opinions, de toutes sortes de perspectives, de toutes sortes de points de vue, de toutes sortes de cultures. Alors aujourd'hui, vous regardez la Terre, puis là vous dites, « Ouais, mais il y a telle région de la Terre, admettons en Asie, où le bouddhisme peut-être semble omniprésent. Ces gens-là sont peut-être hermétiques à l'Évangile de Jésus-Christ. » Non, 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 non. Dans leur langue, ils vont chanter la gloire de Jésus comme vous et moi, on chante la gloire de Jésus. Jésus n'est pas un produit occidental. Jésus n'est pas un produit de l'Occident. Jésus est le sauveur de l'humanité et donc des gens de toutes les nations de la terre. 2. La renommée, la grandeur et la valeur d'un bel objet augmentent proportionnellement à la diversité de ceux qui en reconnaissent la beauté. Vous savez, en mode, moi je m'en allais en design de mode avant d'étudier en éducation spécialisée. Puis en mode, tu sais, il y a des choses que. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui me regardent et disent une chance que ta femme t'aime parce que c'est vraiment pas beau comment tu t'arranges. C'est correct, vous avez le droit de penser ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est ça, hein? Fait que tu regardes des modes à travers le monde puis tu dis esthétiquement, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas beau. Puis, je veux dire, il y a toutes sortes de choses, hein, des accoutrements, des vêtements, n'importe quoi, des choses qu'ils vont faire sur eux-mêmes, puis des fois, leur musique, tu écoutes leur musique, puis tu dis, ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Si quelque chose est universellement reconnu comme étant absolument beau par toutes les cultures avec tous les goûts différents de la Terre, et là, il est vraiment beau, hein? Ce qui va se passer avec l'agneau qui va être sur le trône. Par toutes ces cultures-là, il va être adoré. La force et la sagesse, 3, et l'amour d'un leader apparaissent avec d'autant plus d'éclat que ceux en qui il suscite le désir de le suivre avec joie sont divers. Il y a des pasteurs qui réussissent à rejoindre telle culture. Il y a des leaders nationaux qui réussissent à rejoindre telle culture. Que se passe-t-il si un leader qui réussit à rejoindre toutes les cultures, qui est admiré puis qui est respecté par toutes les cultures. Peut-être que c'est le créateur de tous les hommes, de toutes les nations, de toutes les tribus. 4. En s'intéressant à tous les groupes ethniques du monde, Dieu sape notre orgueil ethnocentrique et oblige tous les peuples à s'en remettre à sa grâce gratuite plutôt qu'à tel ou tel trait distinctif qui leur serait propre. Je ne pense pas me tromper en disant que tout le monde ici est raciste. En tout cas, moi, je le suis. J'essaie vraiment de ne pas l'être. J'ai été élevé depuis ma toute petite enfance avec des gens d'un peu partout sur la Terre. Fait que j'ai toujours aimé la diversité culturelle. Mais la vérité, c'est que des fois, je pense à un groupe ethnique quelconque, puis oups, j'ai un préjugé. Tu sais, je l'entends. Ah, j'ai un préjugé. Ouais, je suis raciste. Tu sais. Puis fait que je veux pas. Je veux combattre ça. Mais le christianisme, par son histoire, longtemps, a pu donner l'impression que c'était la religion de l'Occident. Puis ça, il y a un effet pervers à ça pour l'Église. L'Église peut facilement en venir à croire qu'elle est une culture, l'Église occidentale, qu'elle est dans une culture supérieure aux autres cultures dans le monde. D'accord? Et donc, on peut, comme chrétiens occidentaux, par exemple, je vais vous donner des exemples. Peut-être que ça ne vous passe jamais par la tête, c'est peut-être juste des idées de pasteur. Mais là, tu regardes la Terre. Là, tu dis, OK, le christianisme évangélique est comme en recul tranquillement en Occident, même aux États-Unis. C'est évident. Les évangéliques sont en recul. C'est très, très clair. Là, tu dis, OK, attends un peu. La théologie, le solide, costaud, là, les écrits là, qui construisent, qui bâtissent, ils viennent d'où? Quelques pays d'Europe, majoritairement aux États-Unis. OK, l'Évangile est en train de se répandre à toute vitesse en Chine, est en train de se répandre à toute vitesse en Afrique, est en train de se répandre à toute vitesse en Amérique latine. Là, je vais vous confesser un péché de petit Québécois pur laine. Dans ma tête à moi, hein, Les choses les plus élaborées au niveau théologique sont écrites par des Occidentaux. Et pour l'instant, c'est beaucoup ça encore. Si je ne comprends pas ce que Dieu est en train de me dire ici, là, je vais être inquiet pour l'avenir de l'Église. Parce que je vais me dire, l'Occident recule, qu'est-ce qui va se passer? La théologie va être pauvre, parce qu'effectivement, actuellement, il y a des régions de la Terre où l'Évangile avance à toute vitesse, mais en même temps, c'est l'Évangile de la prospérité qui est en train d'avancer à toute vitesse dans certaines régions de la Terre. Un Évangile vraiment faux. D'accord? Puis là, tu es inquiet, puis là, tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va sauver les gens de toutes les ethnies et de toutes les nations de la terre, et Jésus-Christ va bâtir son Église à travers toutes les ethnies et toutes les nations de la terre, ne serait-ce que pour que les chrétiens occidentaux n'aient pas l'orgueil de se dire « Heureusement qu'on était là pour faire avancer l'Évangile sur la terre. Hein? Heureusement qu'on était là pour ça. » Non, au ciel, il va en avoir d'autres de toutes les nations de la terre qui vont nous regarder, vont nous faire un clin d'œil, qui vont dire « C'était pas vous, tu sais. C'est le Saint-Esprit qui faisait sa job. » C'est bon? Donc, on se revoit dans 2 semaines pour continuer ce cours-là sur la mission. Vous pouvez aller lire le prochain chapitre dans le livre, le chapitre 6. On va terminer avec un petit mot de prière rapidement. Père éternel, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne l'humilité. Ton évangile, encore une fois, Seigneur, nous enseigne l'humilité. Merci pour ton amour pour des gens de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les origines sur la terre. Tu as une passion pour le salut des gens de toute nation, de toute ethnie de la terre, Seigneur, et aide-nous comme Église à prendre à cœur la mission mondiale, à prendre à cœur de donner pour la mission mondiale, de prier pour la mission mondiale, Seigneur, et appelle du milieu de nous des missionnaires qui vont aller vers des peuples non atteints avec l'Évangile. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci.